Nous sommes le 31 mai, journée mondiale sans tabac. Les jeunes du dispositif Relais ont préparé une interview pour cette journée. Leur invité s'appelle Xavier, il est tabacologue et directeur de la Ligue contre le cancer. Cette interview s'inscrit dans les programmes de prévention des conduites addictives d'InfoRC, Stop aux dépendances et Vive l'indépendance.
Luttons contre les conduites addictives. Stop aux dépendances et vive l'indépendance. Une action de prévention et de sensibilisation contre les addictions, c'est sur InfoRC.
Bonjour, nous sommes 4 jeunes du dispositif Relais. Aujourd'hui sur InfoRC, nous allons interviewer Xavier Fenouille, tabacologue à la Ligue contre le cancer. Bonjour, monsieur Fenouille.
Bonjour. Tout d'abord, nous allons parler de vous, de la Ligue contre le cancer et des actions de la Ligue concernant le tabac.
Quel est votre métier ? En quoi consiste le travail de tabacologue ?
Alors mon métier, il est pluriel, c'est-à-dire que moi de formation, je suis psychologue et tabacologue. J'occupe le poste de directeur de la Ligue contre le cancer. La Ligue contre le cancer, elle a 4 missions. Elle a pour mission d'aider les personnes malades touchées par le cancer et les proches, totalement gratuitement, sur simple demande. Deuxième volet, c'est soutenir la recherche, c'est-à-dire financer une recherche indépendante grâce aux dons qu'on collecte tout au long de l'année. Cette année, d'ailleurs, enfin 2022, l'année écoulée, on a réussi à financer plus de 100 000 euros de recherche contre le cancer, donc c'est montrer la générosité aussi des Ardéchois. Et puis on a un volet, information, prévention, incitation au dépistage, c'est-à-dire qu'on va mener des actions pour sensibiliser aux risques, notamment du tabac, du cannabis, de l'alcool, etc. Donc sensibiliser aux addictions.
Comment devient-on tabacologue ?
Tabacologue, c'est un diplôme interuniversitaire, c'est une année de formation. C'est ouvert aux psychologues, aux infirmiers, aux médecins qui souhaitent avoir une spécialisation pour pouvoir accompagner à la fois les personnes qui ont des préoccupations autour des addictions, mais aussi pour accompagner les personnes qui souhaitent arrêter de consommer ou réduire leur consommation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut consulter des tabacologues un peu partout en France, totalement gratuitement, je le précise, pour obtenir des informations. On n'a pas pour objectif forcément de faire arrêter les personnes de fumer, mais on peut, là aussi pour les renseigner. Donc c'est une année universitaire où on sensibilise un petit peu aux mécanismes de l'addiction, comment est-ce que les personnes deviennent dépendantes et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut les accompagner pour les aider à arrêter éventuellement de consommer.
À quoi sert la Ligue contre le cancer ?
La Ligue contre le cancer, c'est avant tout une association reconnue d'utilité publique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une association qui vise à sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer. Parce que la lutte contre le cancer, il ne faut pas que ce soit une affaire personnelle ni une affaire associative, il faut que ce soit une problématique collective. Le cancer, c'est la première cause de mortalité en France, donc il faut que ce soit une problématique générale, il faut que le grand public se sensibilise à cette problématique et sache qu'aujourd'hui, on a des moyens d'éviter certains cancers. Malheureusement, que certains cancers, on considère qu'à peu près 40% des cancers pourraient être évités si on changeait nos comportements. Ça veut dire que si on ne buvait pas d'alcool, si on ne fumait pas, si on s'exposait un peu moins au soleil, si on avait une alimentation un peu plus diversifiée, si on augmentait notre activité physique, eh bien tout ça nous permettrait d'éviter d'avoir parfois certains cancers. Et donc c'est un message qu'on cherche à transmettre.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens?
Par rapport au tabac, quelles sont les actions de la Ligue?
Alors, pour le tabac, on va avoir plusieurs volets. On va intervenir dès le primaire, depuis le CE2, parce que vous savez qu'on commence de fumer très jeune en France, on commence de fumer autour de 13-14 ans, donc on essaie de prévenir, c'est-à-dire intervenir avant que les comportements se mettent en place. Donc on va intervenir du CE2, mais jusque dans les entreprises, pour parler des dangers du tabagisme, pour parler de la publicité. Il faut savoir aussi qu'on est très influencé par la publicité, par le cinéma, par les magazines, etc. Donc comprendre que les réseaux sociaux aussi font qu'on modifie nos comportements en fonction de ce que l'on voit au quotidien. Donc on va aider les personnes à se questionner, à réfléchir un petit peu sur ces comportements réflexes. Et puis on va aussi accompagner, on va monter des groupes d'aide à l'arrêt du tabac ou des consultations individuelles pour aider les personnes qui souhaitent arrêter de fumer.
Nous allons parler maintenant des dangers de la cigarette. Quels sont les risques pour la santé si tu fumes du tabac ?
Alors le tabac a cette problématique, c'est que aujourd'hui c'est un problème de santé publique au sens où ça va concerner l'intégralité du corps. En fait, le tabac, de par sa composition, déjà est naturellement toxique, mais en plus on va le fumer. Et le fait de fumer, on va respirer un gaz qui va envahir le système pulmonaire, qui va après impacter le système cardiaque, le système sanguin bien évidemment, et va toucher l'ensemble de l'organisme. Donc aujourd'hui on peut considérer que le tabac, il est néfaste pour l'intégralité de notre corps. Il va induire des modifications, un impact, y compris sur le visage, sur la peau, sur les cheveux. Donc on peut considérer qu'il y a effectivement des problématiques au niveau des cancers. On connaît de nombreux cancers liés au tabagisme, hein, les poumons, vessie, certains cancers du sein, mais on sait aussi que ça peut avoir des problématiques au niveau cardiologique, des problèmes au niveau de la perception aussi, parfois des saveurs et du goût. Donc vraiment, ça va toucher à tous les niveaux notre organisme.
Quelles substances contiennent le tabac et quels effets peuvent-elles avoir sur le corps humain ?
Alors le tabac, aujourd'hui, on recense à peu près 7000 produits contenus dans la fumée du tabac. Il faut comprendre qu'il y a deux temps. Il y a le tabac à froid, lorsqu'il est préparé, il contient déjà beaucoup de produits toxiques, on considère qu'il y en a à peu près 2500. Et puis quand on va allumer la cigarette, on va fabriquer de nouveaux produits, notamment les goudrons. Il n'y a pas de goudron, par exemple, dans une cigarette éteinte. Le goudron va être fabriqué, les goudrons vont être fabriqués par la combustion. C'est une réaction chimique, on va fabriquer du goudron. Et à partir de là, on va fabriquer d'autres cancérigènes. On considère qu'il y a à peu près 70 cancérigènes. Cancérigène, c'est donc un produit qui est susceptible d'induire l'apparition un jour d'un cancer. Ces 7000 produits, l'intégralité de ces produits est toxique, à peu de choses près. On va retrouver des produits, ce qu'on appelle des agents de texture et de saveur. On le voit souvent marqué sur les paquets de cigarettes. Ce sont des produits qui, sous un nom banal, va donner en fait une modification de notre perception du goût. Ça veut dire qu'on va rajouter parfois du miel, du cacao, soit pour augmenter l'absorption de certains produits, soit pour limiter la sensation que certains produits vont pénétrer notre corps. On va retrouver évidemment de la nicotine. La nicotine, il faut le rappeler, c'est l'insecticide de la plante. Donc c'est un poison, c'est un toxique qui est fabriqué par la plante pour se protéger contre les nuisibles, contre les insectes, que nous, on va inhaler. Elle a comme particularité, cette nicotine, de monter à notre cerveau assez rapidement. On parle de shoot de nicotine. C'est le principe d'une drogue, hein, il faut que ça monte vite au cerveau. Ce shoot de nicotine, il va provoquer ce qu'on appelle la dépendance. Ça veut dire que, en tous les cas, une forme de dépendance, qu'on appelle la dépendance physique, c'est la difficulté à arrêter de fumer sans ressentir du manque ou une souffrance. Les personnes qui fument sont souvent en manque, elles sont plus stressées, plus irritables, elles ont besoin de fumer régulièrement pour se sentir bien. La nicotine, c'est un peu la problématique, pas tant en termes de santé, mais en termes d'addiction contenue dans le tabac.
Si je n'avale pas la fumée, est-ce que c'est dangereux ?
Alors quand on parle d'avaler la fumée, il faut qu'on reprenne. En fait, personne n'avale la fumée. Avaler, ça voudrait dire qu'on la fait descendre dans l'estomac. C'est un mot un peu générique, avaler la fumée, ça veut dire la faire descendre dans les poumons, en fait, hein. C'est donc inspirer profondément, prendre un deuxième souffle et faire descendre du coup la fumée dans les poumons. Effectivement, on sait que faire descendre la fumée dans les poumons, c'est extrêmement toxique. Pour ce qui est des fumeurs qui, ce qu'on appelle crapotent, c'est le cas des fumeurs de cigares, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais les fumeurs qui fument des cigares gardent la fumée dans la bouche, ils la font pas descendre dans les poumons, c'est même pas nécessaire de le faire, puisque quand on fume des cigares, la nicotine passe par la cavité buccale directement dans le sang. Quand on fume des cigarettes qu'on appelle blondes aujourd'hui, des cigarettes parfois légères, elles sont qualifiées comme telles, elles sont pas moins mauvaises pour la santé, mais voilà, ces produits-là nécessitent, pour que la nicotine passe dans le sang, de descendre dans les poumons. Les personnes qui crapotent, donc qui gardent la fumée dans la bouche, risquent moins en apparence d'être dépendante à la nicotine parce qu'on aura une difficulté à absorber la nicotine. Mais par contre, au niveau de la cavité buccale, donc de la bouche, on parle de la langue, on parle du palais, etc., des dents, on va observer des gingivites, donc des inflammations des gencives. Ça peut induire des chaussements des dents, des caries dentaires, et plus grave, on peut avoir des cancers du palais, de la langue, etc. Donc crapoter, c'est pas anodin, ça peut être extrêmement grave pour notre santé buccale.
Qu'est-ce que t'as fait de ma tête ? Tu l'as fumée, cigarette. Quand tu m'allumes, je suffoque. Je suis perdu si t'arrêtes. Si entre nous ça crapote, viens dans ma boîte d'allumettes. un petit bout rouge que l'on frotte. Quand ton corps incandescent contre mon corps dépendant filtre l'amour, les fumées toxiques, l'ammoniaque et l'arsenic. À mon corps défendant, il serait indécent de tirer un coup si j'arrête.
Quelle est la différence entre le tabac et le cannabis, et est-ce plus dangereux de fumer du cannabis?
Alors, le tabac et le cannabis, ce sont deux plantes différentes. Déjà, il faut être bien clair là-dessus. Le tabac a comme molécule active la nicotine. Le cannabis, c'est une autre plante qui a pour molécule le THC, le tétrahydrocannabinol. On en parle beaucoup en France de ce produit qui, il faut le rappeler parce qu'on est là pour le dire, ce produit est interdit en France à la consommation et à la production pour des consommations addictives. Le cannabis a des propriétés qui sont différentes de celles du tabac, au sens où c'est un produit qui va aussi, donc le THC va aussi monter au niveau du cerveau. Il ne va pas induire nécessairement la même addiction qu'on pourrait l'observer dans le cas de la nicotine, mais peut induire une altération de la perception du réel. Donc il y a des personnes qui vont dire que ça les détend plutôt, des personnes qui vont avoir l'impression qu'elles arrivent mieux à dormir avec, et des personnes qui peuvent avoir des effets plutôt négatifs, qu'on va appeler des bad trips, des sentiments d'angoisse, des sentiments de stress élevés. Et puis, parfois, des personnes qui disent avoir du mal parfois à redescendre de cette sensation, le sentiment qu'elles sont un peu déconnectées du réel dans le temps. Le cannabis, ce qu'il a de commun avec le tabac, c'est que dans les deux cas, et dans la majorité des cas, il est fumé. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on fume un produit, quel que soit le produit, quelle que soit la façon dont il a été produit, ça veut dire que si on fait pousser chez soi, etc., ça reste un produit toxique. Le corps n'est pas habilité à respirer la fumée. Donc, quand je reçois en consultation des personnes qui me disent « moi, je produis chez moi, etc., ce qui est illégal », bon, bref, c'est pas le sujet, ça reste un produit mauvais pour la santé. Il n'y a pas de produit fumé qui soit bon pour la santé. On pourra mettre tous les produits bio qu'on voudra à l'intérieur, du moment qu'on fume, c'est mauvais pour la santé. Voilà. Pour la petite histoire, quand on parle de cannabis, le cannabis en France porte beaucoup de noms. On parle de Marie-Jeanne, de Marie-Rohanna, de Beuh, de Beuhère, je ne sais plus ce qu'on peut nommer encore, mais tous ces produits-là sont des dérivés du cannabis. C'est une différente façon de nommer soit la feuille, soit la résine de cannabis.
Que pensez-vous de la puff?
Alors la puff, c'est un gros débat en France, vous le savez. Il y a même une réflexion ministérielle pour interdire la puff, sans doute dans les mois qui viennent. Il y a de fortes chances que d'ici à la fin de l'année, voire même à la rentrée scolaire en septembre, ce soit interdit en France. La puff, c'est un dérivé de la cigarette électronique. C'est un produit, j'imagine que vous connaissez, mais c'est un produit qui est déjà dosé, qui n'a pas besoin d'être rechargé, et d'ailleurs qui est jetable. C'est un des arguments contre le produit d'ailleurs. Là où la cigarette électronique a été en principe créée pour aider les gens qui veulent arrêter de fumer, la puff a été plutôt un produit considéré comme un gadget qui vise essentiellement un public jeune et qui vise à les sensibiliser à une drogue. Ça veut dire qu'on fabrique un produit qui serait vendu à des mineurs, qui contient un produit psychoactif, la nicotine en l'occurrence, qui va induire peut-être une dépendance chez un public très jeune et qui va les obliger peut-être d'une part à continuer de fumer longtemps, de consommer longtemps, c'est pas fumer la puff, c'est pas, y a pas de combustion, mais peut-être, et ce que craint l'État, ce que craint le ministère de la Santé, c'est que si on consomme la puff un jour, peut-être que c'est une porte ouverte vers la consommation d'une cigarette à combustion plus tard. Il faut rappeler en plus que la puff, elle a une problématique écologique, ça veut dire qu'elle utilise des produits, des matériaux, notamment des plastiques, mais d'autres pièces qui sont aujourd'hui extrêmement polluantes, et elle a tous les arguments contre elle. Et on imagine qu'effectivement, compte tenu de tout ce contexte-là, qu'il y a beaucoup de pays européens qui ont déjà interdit la puff, il est fort probable qu'on la voit disparaître très rapidement.
Y a-t-il des dangers à fumer la chat ou la cigarette électronique?
Alors, la cigarette électronique, comme on le disait, dans le cas de la puff, c'est pas une cigarette fumée. C'est-à-dire qu'on n'allume pas avec un briquet ou une cigarette, donc il n'y a pas de combustion. Quand on allume une cigarette, la combustion, elle se fait presque à 1000 degrés, c'est extrêmement chaud. Premier problème avec le tabac, c'est la brûlure. Quand on parle de cigarette électronique, la température est beaucoup plus froide, c'est allumé par batterie, donc c'est quelque chose qui n'est pas très chaud, donc il n'y a pas le problème de la combustion ni de la brûlure. Par contre, Le problème de la cigarette électronique est parfois dénoncé, c'est qu'elle peut contenir, selon les produits qu'on y met à l'intérieur surtout si elle est modifiée, elle peut induire parfois la production de produits toxiques. Il faut considérer qu'une cigarette électronique, si elle est achetée en France, si on achète les produits qui sont validés au sens européen du terme, si on se rend dans des boutiques qui sont sérieuses, normalement les boutiques qu'on trouve aujourd'hui sur le marché sont dans la très grande majorité d'entre elles sérieuses, il faut considérer que c'est un produit qui n'est pas nécessairement très mauvais pour la santé, d'autant plus qu'il vise à aider les personnes à arrêter de fumer, je le rappelle. Ce produit-là doit accompagner les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Ça ne s'adresse pas aux non-fumeurs, ça c'est bien clair, et encore moins aux mineurs. Voilà pour la cigarette électronique. Pour le deuxième produit, la chicha. La chicha, c'est un produit qui a une histoire, une tradition aussi, au sens du Maghreb aussi, où il y a une culture aussi collective, collégiale, conviviale autour de ce produit. Le problème de la chicha, c'est qu'on n'a pas forcément la perception de ce qu'on fume à ce moment-là. C'est un produit qui va fabriquer beaucoup de monoxyde de carbone, qui va fabriquer beaucoup de toxiques, sensiblement un peu les mêmes que ceux qu'on fume quand on fume du tabac seul. Mais ici, on va respirer des doses plus importantes. Ça veut dire que quand on tire sur une chicha, on va prendre l'équivalent d'à peu près 40 taffes de cigarettes en une fois, ce qui est extrêmement fort. Il y a des gens qui peuvent ressentir un certain malaise à ce moment-là. C'est un produit qui est mauvais pour la santé, encore une fois, mais je le redis, parce qu'on brûle du tabac, même si là, c'est du tabac mélangé avec de la mélasse, même si c'est parfumé à la fraise, à la pomme, à la mangue, peu importe, ça reste du tabac, et c'est un produit qui est fumé, donc mauvais pour la santé.
Quelles sont les autres conséquences que peut avoir la cigarette ?
Alors la cigarette, elle a, on l'a dit, des effets à moyen terme et à long terme. Ça veut dire que si on fume aujourd'hui, on ne va pas développer évidemment un cancer du palais, de la langue, des poumons, etc. On est sur du long terme et on ne peut pas l'assurer. On ne sait pas ce que ça peut induire. Par contre, à court terme, ça s'observe assez rapidement. On va observer chez un fumeur qui est un jeune consommateur, on l'observe souvent chez les adolescents, on va observer des cheveux gras, on va observer une acné, ça développe l'acné, le tabac. On va observer une voix plus rauque, on va observer une mauvaise haleine, on va observer des dents plus jaunes. La nicotine, elle tache les dents, elle tache les doigts, elle peut tacher la moustache. Et puis, elle va induire un développement pileux aussi, notamment chez les filles. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément très agréables, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont des effets visibles assez rapidement. Ça donne un teint gris, ça donne des rides plus perceptibles. Et il faut se rappeler que, puisqu'on est un peu aussi dans une culture du culte du corps, où on essaie maintenant de valoriser toujours plus le corps au travers de l'activité physique, ce qui est bien, mais peut-être parfois de la musculation, etc., on sait que quand on fume, notre organisme est moins oxygéné, donc on va avoir plus de difficultés à développer nos muscles, donc on va avoir une musculature plus fragile, et on va aussi observer une croissance plus faible, c'est-à-dire que les fumeurs sont en général plus petits que ce qu'ils devraient être s'ils ne fumaient pas. Donc ça a un impact assez important en tous les cas sur l'organisme, y compris à court terme.
La cigarette tue tout doucement, 250 milliards de morts par an, cette maladie si célèbre et merdique qu'est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher, et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopons sur les conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume, fume.
Tout le monde sait que le tabac est mauvais pour la santé, mais pourtant il y a toujours des gens qui fument. Pourquoi est-il si difficile d'arrêter de fumer ?
Le tabac, c'est d'abord un fait social. Souvent, on commence de fumer avec les copains ou les copines. Ça veut dire qu'il y a question de groupe. Ça veut dire que ça fédère, on se retrouve autour d'un objet commun. En vieillissant, parce que le tabac, ce n'est pas un produit d'adulte, c'est un produit qui se fait de plus en plus jeune, qui se fait adolescent. en vieillissant, il y a d'autres cultes qui se mettent en place. Il y a le culte du café, le culte du gâteau, le culte... Il y a des rituels qui se mettent en place et qui se font progressivement différents. Le tabac, chez l'adolescent, ça reste un moment où on se reconnaît. On est entre fumeurs, c'est un peu identitaire. Moi, je suis fumeur, toi, tu ne l'es pas. J'appartiens à un certain groupe. Toi, tu n'appartiens pas à ce groupe-là. Donc, c'est une façon un peu identitaire de se reconnaître entre ses pairs. Et puis... quitter cette sphère-là, c'est-à-dire arrêter de fumer, c'est peut-être perdre les copains, c'est peut-être perdre la pause qu'on prenait avec les collègues, c'est peut-être prendre un risque de devoir changer de vie. Ça, déjà, ça peut être un frein. Et puis, il y a toujours cette problématique de la nicotine, cette nicotine qui fait que notre corps va réclamer à manger, alors à manger quoi de la nicotine ? Et qui va induire une souffrance, qui va induire parfois une prise de poids chez les personnes qui veulent arrêter de fumer. Donc, c'est quelque chose qui résiste, la nicotine. On a l'impression que c'est quelque chose qui s'accroche et qui fait que la personne, quand elle veut arrêter de fumer, il y a quelque chose qui la dépasse, qui va jouer sur des leviers, y compris sur l'appétit, hein, ou avoir le sentiment qu'on n'arrive pas à arrêter de fumer. C'est pourquoi il existe aujourd'hui des médicaments pour accompagner les personnes dépendantes. Et puis, il y a une troisième dépendance qu'on parle souvent aussi, qui est la dépendance plutôt psychologique. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que fumer, ça détend. Il y a beaucoup de gens qui fument parce que ça leur tient compagnie, parce qu'ils s'ennuient, parce que ça leur donne une gestuelle, etc. Il faut savoir que le tabac n'est pas un anxiolytique, ça ne lutte pas contre le stress, au contraire, ça augmente le stress. C'est un excitant, au même titre que la caféine. Alors pourquoi les gens disent que ça les détend ? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont en manque de nicotine, quand ils prennent de la nicotine, ça va les soulager, et on va confondre à ce moment-là soulagement et détente. Le tabac, c'est un excitant. Si vous n'êtes pas consommateur de tabac et que vous prenez la nicotine, sous quelque forme que ce soit, vous allez accélérer votre rythme cardiaque et vous allez vous sentir en difficulté. Le tabac n'est pas quelque chose qui va vous détendre, malheureusement. Ce n'est pas un outil, ce n'est pas un médicament. On ne lui trouve pas de vertu spécifique. Donc, ce n'est pas un produit qui viserait à la qualité de vie ou au mieux-être à moyen terme ou à court terme.
Pourquoi les jeunes commencent à fumer, selon vous ?
Bon, alors on l'a un peu dit, du coup c'est un peu des fois entre copains, hein, c'est l'idée qu'on va être entre soi, on va arriver à monter un petit peu un groupe sous la bannière du tabagisme, sous un trait commun. Après il y a aussi la pression du groupe, hein, les copains qui disent bah vas-y tu peux bien en essayer une, ça fait quoi, une cigarette c'est pas grand chose, etc. Et puis pendant longtemps il y avait l'idée aussi que fumer ça fait adulte, que le tabac c'est un truc de grand avec d'énormes guillemets. Ou si je prends une cigarette, je me donne une image un peu rebelle, quelqu'un qui a compris beaucoup de choses sur la vie, je ne suis pas le petit garçon qui écoute les conseils de son papa et sa maman, je me rebelle et je me démarque en utilisant un produit dont on sait qu'il est toxique, parce que rares sont les jeunes qui commencent de fumer sans savoir que le produit est mauvais, mais pensent-ils sans doute que c'est un produit qui va modifier un peu leur image. Alors ça va modifier leur image corporelle, ça c'est vrai, et pas de manière favorable malheureusement, parce que ça va rapidement se voir qu'ils consomment, mais certains pensent encore que le tabac les fera grandir au sens large du terme. Or, les statistiques montrent que fumer, c'est un comportement plutôt ado, c'est-à-dire que c'est pas un comportement d'adulte. Au-delà de 35 ans, il y a un effondrement du tabagisme en France. Il y a une dénormalisation du tabagisme. Aujourd'hui, c'est surtout effectivement les ados qui fument. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 25% de fumeurs en France. Donc c'est loin d'être la majorité. On est de moins en moins de fumeurs en France. J'allais dire heureusement, pour deux raisons. Déjà pour des raisons de santé, mais il y a aussi la raison économique. On pourrait se dire aussi, les paquets coûtent de plus en plus cher. Sachez que la loi E20 fait que le prix du tabac augmentera de toute manière tous les ans, systématiquement, il ne faut pas se laisser surprendre par ça, c'est normal. Depuis 1991, le prix du paquet de tabac augmentera tous les ans. Et puis, voilà, il y a aussi l'idée qu'à un moment donné, ce tabagisme-là, c'est aussi un polluant environnemental, c'est du tabagisme passif, c'est-à-dire qu'on intoxique aussi les gens avec lesquels on vit. Donc ce tabagisme-là, il est important qu'on se questionne sur le devenir de ce produit, un produit qui est ancien. On fume, j'allais dire, presque depuis Christophe Colomb. Peut-être que pour un gadget, pour un phénomène de mode, ça a un peu duré. Peut-être qu'il serait temps qu'on arrive à passer à quelque chose qui soit plus favorable à la santé.
Le mieux, c'est donc de ne pas commencer. Mais si on est fumeur et qu'on veut arrêter de fumer, quels sont les moyens pour arrêter de fumer ?
Alors, il y a beaucoup de manières. On aura tendance souvent à dire « allez voir un tabacologue ». C'est bien d'aller voir un tabacologue, je l'ai dit, c'est gratuit, ça accompagne. Dans le temps, malgré les difficultés qu'on peut avoir, le professionnel sera là. Mais on peut arrêter seul de fumer, et ça, il faut le rappeler. Il ne faut pas croire qu'on a besoin toujours de médicaments pour arriver à quelque chose. Arrêter de fumer, c'est d'abord se dire « je me sens prêt ». Déjà, c'est un cheminement, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Il y a deux solutions. Pendant longtemps, on disait, faut arrêter d'un coup, c'est comme arracher un pansement, faut y aller d'un coup, c'est au moins ça s'est fait. Beaucoup de gens arrivent à arrêter de fumer en diminuant. Il n'y a pas de souci avec ça. On peut diminuer progressivement son tabagisme, on se donne des règles, des objectifs, on peut écrire dans un cahier, dans un mois j'aurai baissé de temps, etc. Et on essaie de s'y tenir, ça peut être pas mal. Après, il y a des plantes qui accompagnent aussi l'arrêt du tabac. Il y a la racine de kudzu, ça s'appelle, K-U-D-Z-U, qu'on trouve chez les herboristeries, etc. C'est un produit qui est très efficace dans l'arrêt du tabac, notamment chez les personnes qui sont dépendantes à la nicotine. C'est un produit naturel qui est plutôt confortable à utiliser. Et puis, il faut savoir que les agrumes accompagnent bien l'arrêt du tabac. On est dans une période où on peut en manger pas mal de fruits et légumes, mais on a les agrumes qui s'éloignent un peu. Mais si on peut se tourner vers les pomelos, et etc., les oranges, citrons, bien évident, les agrumes vont limiter notre capacité à absorber la nicotine. Ça veut dire que quand on va manger ces produits-là, on va absorber un peu moins de nicotine, on aura moins d'appétence, on aura moins envie de fumer, et petit à petit, on pourra diminuer plus efficacement son tabagisme. Après, il faut en parler quand même, il y a des médicaments, effectivement. Il y a les patchs, il y a les pastilles, on va éviter les gommes parce qu'il y a beaucoup de problématiques autour de ce produit-là. C'est un produit qui est plutôt efficace à condition de bien se faire conseiller. Les pharmaciens sont bien formés à dispenser ces outils-là, les médecins bien évidemment, les tabacologues. N'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez utiliser des patchs parce que ça ne marche pas avec tout le monde. Donc au lieu de prendre systématiquement des patchs et être déçu, il vaut mieux s'assurer que ça puisse fonctionner. Ensuite, il y a toutes les approches alternatives. Il y a l'hypnose. Il y a l'homéopathie, il y a la phytothérapie, il y a plein d'approches qui peuvent accompagner les personnes. Il n'y a pas un produit miracle dans l'arrêt du tabac. Il n'y a que du cas par cas, c'est pour ça que c'est intéressant de se faire conseiller parfois. On a de bons résultats aujourd'hui dans l'arrêt du tabac, à condition d'être bien conseillé, d'être bien orienté.
Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide ?
Alors, du coup, on l'a dit, dans les pharmaciens sont très efficaces dans cette aide-là. Bien évidemment, les médecins, mais voilà, on a la problématique des médecins qui sont un peu moins accessibles en ce moment. Et puis, rencontrer les tabacologues, on peut aller sur Tabac Info Service, on trouvera toutes les informations sur les tabacologues en France, toutes les consultations qui sont mises à disposition des personnes. Sur l'hôpital d'Aubenas, par exemple, je prends cet exemple puisqu'on est sur ce secteur-là, il y a un service d'addictologie avec une équipe qui est très efficace. On a des psychologues, des infirmiers addictos, il y a des médecins bien évidemment, il y a des personnes qui sont en capacité de proposer des séances d'hypnose. Donc il y a vraiment toutes les approches qui peuvent être proposées, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. Encore une fois, c'est dans le cadre hospitalier, donc il n'y aura pas d'engagement financier derrière.
Affranchi comme une carte d'un timbre sur l'épaule droite, c'est la traversée du désert. Je viens d'écraser la dernière, comme un grand coca glacé sous la canicule d'été qu'on vous empêcherait de boire et sur lequel on peut s'asseoir. 24 heures sur 24, la blessure arbitraire, la convoitise opiniâtre d'une bouffée salutaire. J'ai beau mâcher des trombones et tordre des clous à cette idée qui se cramponne, j'aimerais tordre le cou, c'est décidé, j'assume, déterminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette. C'est sympa de m'accompagner dans le renoncement du vice. Tout le monde m'a félicité, à part Philippe et Maurice, qui m'attendent au tournant quand j'irai en cachette, désespérément craquer l'allumette. 1, 2, 3, 4 jours sans tabac, c'est pas beaucoup certes, mais dans 26 ça fera un mois. On me trouve légèrement irritable et je me demande bien pourquoi. Sans doute parce qu'il est ratable, j'ai défenestré le chat. C'est décidé, j'assume, déterminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette.
Qu'est-ce que le mois sans tabac ?
Alors le mois sans tabac, c'est un format anglais qui nous est arrivé il y a, je vous dirai pas la date, mais il y a peut-être 6-7 ans maintenant, qui avait rencontré un franc succès où ils avaient décrété que pendant 28 jours, normalement c'est 28 jours, on invite les personnes à ne pas fumer. Pourquoi 28 jours ? Parce qu'on sait que métaboliquement, au niveau du corps, si on arrête de fumer pendant 28 jours, on multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Donc on invitait les gens à se monter un challenge et à se dire « Allez, on arrête tous ensemble au mois de novembre, parce qu'en France c'est au mois de novembre, on arrête tous ensemble et on voit ce qui se passe. » En Angleterre, c'était en octobre, Stoptober ça s'appelle. La différence avec le format anglais, c'est qu'ils offraient des coupons pour aller retirer des patchs, etc. En France, on n'a pas fait ce choix-là. La Ligue contre le cancer a été partenaire de la mise en place de ce projet. On a trouvé que ce n'était pas pertinent d'offrir des patchs parce que le patch ne convient pas à tout le monde. Mais l'objectif, c'est que durant tout ce mois-là, on peut accéder, mais évidemment en dehors de ce mois-là aussi, on peut accéder à des informations précises pour arrêter de fumer. On peut demander un kit aussi, gratuit. C'est-à-dire qu'il y a plein d'astuces à l'intérieur, des outils pour se repérer dans l'arrêt du tabac. Et donc, c'est un mois où on va sensibiliser et encourager les gens qui souhaitent arrêter de fumer.
Pourquoi un mois sans tabac ? À quoi ça sert ?
Ben parce que finalement, ça permettait de mettre en lumière le combat contre le tabagisme. Il y avait la journée mondiale sans tabac, le 31 mai. Et maintenant, on a ce mois-là qui rappelle effectivement que si on arrive à tenir dans le temps son sevrage tabagique, on est presque sûr de pouvoir tenir longtemps dans l'arrêt du tabac. Mais c'est aussi pour se rappeler que c'est une affaire nationale, l'arrêt du tabac, parce que le tabac, ça coûte cher. Ça coûte cher d'abord aux gens qui consomment. Ça coûte cher en santé aussi, parce que tomber malade du tabac, c'est fréquent. Et en plus, ça occasionne des maladies graves qui coûtent cher aussi au système. Ça relève du choix. On a le droit de fumer en France. Mais se rappeler qu'aujourd'hui, ne plus fumer, c'est être en meilleure santé, être en capacité de peut-être vivre plus longtemps et peut-être de profiter un peu plus des choses du quotidien.
Qu'est-ce que vous faites pendant le mois sans tabac ?
Sur le mois sans tabac, en général, on fait des campagnes de sensibilisation, notamment sur nos espaces sans tabac. En Ardèche, il y a une vingtaine d'espaces sans tabac, c'est-à-dire des lieux de vie. Notamment, il y a l'Agora, la place de la Poste à Aubenas, qui a été le premier espace sans tabac créé en Ardèche, où en fait, ce sont des lieux qui sont libérés de la combustion du tabagisme. Ça veut dire que c'est des lieux où les enfants peuvent venir, il n'y aura pas des mégots, ce ne sera pas un espace où on fera une vitrine pour le tabagisme. Et sur ces lieux-là, on va sensibiliser, on va expliquer comment on peut accompagner vers l'arrêt du tabac. En général, on a des professionnels de santé qui viennent à cette occasion pour discuter avec le grand public. Nous, on se rappellera toujours que le tabagisme est une liberté en France. On est là pour accompagner les personnes qui se sentent en difficulté avec l'arrêt du tabac ou qui veulent des renseignements sur le tabagisme. Et à cette occasion, on tient plutôt du coup des stands, des manifestations. Et puis par ailleurs, et je le souligne, il y a l'hôpital d'Aubenas qui a lancé aussi une course. C'est le challenge du Gradus. C'est une manifestation qui a sa deuxième édition qui s'est tenue l'année dernière, qui a très bien fonctionné, où on invite les gens à avoir une petite activité physique ou une activité physique un peu plus intense, parce que l'activité physique, c'est aussi un bon moyen de lutter contre le tabagisme et surtout pour arrêter de fumer. Donc il faut saluer aussi les équipes de l'hôpital de Bonnat qui ont mis en place ce challenge et qui va se renouveler cette année encore, du coup au mois de novembre.
Merci Xavier Fenouille d'avoir répondu à nos questions pour nous parler du tabac. Je rappelle que vous êtes tabacologue à la Ligue contre le cancer.
Pour plus d'informations sur la Ligue contre le cancer ou pour faire un don, c'est sur ligue-cancer.net.
Stop aux dépendances et vive l'indépendance.
L'action d'information et de prévention des conduites addictives d'Info RC est soutenue par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et l'éducation nationale.
Une programmation par les jeunes et pour les jeunes sur InfoRC.